Interview.
2 jours.
Rencontre de l'écologie, toujours en interview, avec la présence de Christian Laval et Guillaume Pégon. Bonjour à vous deux. Vous êtes ici pour une conférence que vous venez de donner, qui s'intitule « Soucis écologiques et santé mentale dans un monde troublé », qui est également le titre que vous avez co-écrit. Et pour vous, cette présence au sein des rencontres, avec ce titre « Se relier, rêver et résister », quelle résonance cela paraît dans votre travail.
Bonjour, merci de nous proposer de prendre la parole. Du coup, notre livre, il vise à interroger la question politique de la santé mentale en lien avec les enjeux écologiques. Et donc, du coup, notre sujet, c'est vraiment de voir comment aujourd'hui les individus se construisent à travers des pratiques collectives qui leur permet de se situer par rapport aux enjeux écologiques. Donc ça peut être des pratiques collectives qui sont du côté de la santé mentale, du rapport aux animaux, du côté d'un certain nombre de luttes écoféministes ou spirituelles. Enfin, voilà. Donc on a étudié dans notre ouvrage en fait un certain nombre de scènes sociales qui permettent d'interroger le rapport entre santé mentale et écologie.
Alors, dans la présentation du livre, vous cadrez un peu cet aspect. Dans un monde en feu, la crainte de l'effondrement de soi et du monde met aussi mal à l'aise les subjectivités. On s'imaginait avoir une planète sans limite, une société en expansion sans limite. Et là, patatras, il y a la crise climatique, mais aussi économique. Donc, il y a une part de cette responsabilité, enfin de ces facteurs qui induisent aussi sur le moral des personnes. Ça, c'est ce que vous avez détecté, c'est votre travail.
En fait, dans la manière dont vous posez la question, il y a la réponse. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre au travail. Mais il y a ce constat, effectivement, que la question des intériorités est complètement liée avec la manière dont on vit dans ce monde-là qui devient un peu fou, pour le coup. Quelqu'un tout à l'heure a dit malade, mais plus précisément, ce qu'on a essayé de faire, c'est quels sont les lieux, les acteurs, les dispositifs où les gens à la fois rêvent et résistent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de rêver. Il ne s'agit pas simplement de résister, parce que résister, au bout d'un moment, on est dans une position héroïque et on peut effectivement se craquer, avoir des situations de burn-out. Mais la question qui est vraiment au travail et qui nous intéresse là dans votre titre, c'est rêver et résister. Alors évidemment, se relier, parce que vous parlez de rencontres, vous ne parlez pas de colloques ou des choses comme ça. C'est des rencontres. Donc on est venu, nous, sur la rencontre pour voir comment les gens qui continuent à rêver mettre en place aussi des dispositifs de résistance.
Alors je reviens aussi à ce qui vous a amené à rédiger, c'est que vous êtes titulaire de diplôme, notamment un doctorat de sociologie et d'anthropologie pour vous, Guillaume Pégon, et d'un master en psychologie clinique. Et pour vous, Christian Laval, vous avez aussi une maîtrise en santé mentale et un diplôme d'une étude supérieure spécialisée en sociologie appliquée au monde au développement local. Alors, développement local, qu'est-ce que ça induit ? Est-ce que c'est la ruralité ? C'est aussi certains quartiers dans des villes. Est-ce que c'est aussi un travail qui puisse s'adapter à toutes les situations ?
Alors, ce qui nous a intéressé dans l'ouvrage, c'est de regarder comment se fabriquent des dispositifs qui permettent de répondre aux enjeux écologiques, mais de manière collective, et qui, en même temps, ont un impact sur la santé mentale des personnes. Donc on ne s'est pas centré sur les dispositifs de santé mentale classiques, donc du coup dans les institutions psychiatriques ou dans les centres médico-psychologiques, etc. On s'est centré sur, pour les gens ordinaires en fait, qu'est-ce qui fait santé mentale ? Qu'est-ce qui fait qu'on va mieux ? Comment on fait pour se sortir des angoisses qu'on peut ressentir face aux enjeux écologiques ? Ou qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se sortir de la solastalgie, enfin cette ce deuil, en fait, qui peut être douloureux d'un territoire qu'on a connu, mais qui s'est complètement transformé à cause des changements climatiques. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de voir comment des pratiques sont en train d'émerger sur les territoires qui permettent de fabriquer du lien social, du vivre ensemble, et qui ont un effet pour transformer ces émotions douloureuses en quelque chose d'actif, de militant, voilà, qui fabrique de l'engagement. Quoi.
Comment s'organisent justement ces rencontres ? Est-ce que c'est par le biais de médias ? Est-ce que c'est le bouche à oreille ? Est-ce qu'il y a une organisation que vous avez pu déceler pour cette mise en place ?
En fait, les collectifs dont on parle, c'est des collectifs qui émergent souvent dans des territoires où il n'y a pas justement de dispositif classique de santé mentale et de psychiatrie, donc souvent en milieu rural. Du coup, il y a une pauvreté en termes d'accès aux soins en milieu ordinaire, on va dire, ou même en pratique libérale. Et donc, du coup, on peut avoir l'émergence, par exemple, de cercles de soutien, des cercles de femmes, des cercles d'hommes qui, en fait, se soutiennent autour d'une préoccupation écologique, mais qui renvoient aussi à des rapports de pouvoir qui peuvent être problématiques du côté des relations hommes-femmes, des rapports de pouvoir dans le travail. Donc, du coup, avec un questionnement critique sur comment le travail conduit à des formes d'épuisement, de burn-out. Et du coup, les gens se relient, en fait, en fabriquant de l'entraide de manière un peu spontanée. Donc c'est pas un appel ou quelque chose qui viendrait des politiques publiques qui lancent un appel pour fabriquer ce type de dispositif, c'est plutôt des citoyens qui s'organisent entre eux pour fabriquer des dispositifs de soutien et d'entraide, quoi.
Et pour cela, il y a quand même un soutien local, que ce soit par des organismes ou des institutions ou une intercommunalité, comme dans le Diwa, il y a une mise en place de cette santé mentale. C'est une chose qui s'observe partout en France.
En fait, vous avez employé le terme de développement local qui pose quand même un certain nombre de questions, puisqu'en fait, dans la manière dont les politiques publiques sont mises en place en France depuis, si on prend simplement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était vers quelque chose qui était beaucoup plus une politique publique se décide et s'organise de façon descendante au niveau des territoires. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que les territoires, ils avaient des cultures, des identités, des histoires. Et donc, les politiques publiques ont commencé à mettre en place ce terme de développement local. Mais dans le terme de développement local, il y a le terme de développement. Et en fait, nous, on est assez critiques sur cette question du développement tel qu'il est mis en place par les politiques publiques initialement, puisqu'en fait, dans le terme de développement, si on prend par exemple les milieux ruraux, il s'agit de moderniser l'agriculture, il s'agit d'enlever les haies, il s'agit de tout un tas de choses. Donc en fait, ce terme de développement, personnellement, je ne le reprendrai pas. Mais ceci dit, la question des territoires est très importante. Alors quelles sont les instances un peu plus institutionnelles qui peuvent contribuer à ça? C'est ça votre question? Je pense qu'effectivement, c'est complètement lié, je dirais, à la manière dont ces territoires sont investis. Si on voit, par exemple, la Drôme, le Diois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est complètement lié avec ce souci écologique, sur l'agroécologie, sur des modes de vie alternatifs qui, à un moment donné, remontent aussi dans des instances décisionnelles qui permettent d'avoir un peu de sous pour faire des événements intéressants. C'est pas le cas, par exemple, dans le département d'où on vient, où on se rend compte quand on vient ici, que chez nous, on est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de tissu social alternatif qui permette à un moment donné d'être relayé au niveau local, voire départemental, pour que les gens puissent s'exprimer. Par contre, il y a une autre chose qui est intéressante au niveau institutionnel, c'est les tiers-lieux. C'est-à-dire que l'émergence des tiers-lieux, donc à mon avis, qui sont quand même relativement menacés aujourd'hui, mais a permis à un moment donné de poser ces questions à la fois d'écologie, de lien social, de rêver et de résister ensemble. Et je pense que là, nous, on intervient de temps en temps dans des tiers-lieux. On se rend compte que ce sont des endroits où ça continue à penser les problèmes auxquels on est confronté.
Selon vous, les tiers-lieux sont aussi porteurs de viviers pour préparer aussi certains aspects de la société à venir.
Vas-y. Ce qui est intéressant pour nous dans les tiers-lieux, c'est d'associer la question critique et donc politique du vivre ensemble. Ce n'est pas juste un espace où on fabrique du soin, c'est un espace où on fabrique du soin dans le rapport aux autres, dans le rapport au vivant, avec une grille de lecture critique du capitalocène, du néolibéralisme. Et ça, ça donne à voir en fait à la fois des espaces de soins qui font du bien au corps, qui font du bien au cœur, à la tête, mais ce qui font aussi du bien dans l'engagement politique des individus pour essayer de faire changer la relation au vivant. Voilà, donc du coup, le tiers-lieu, pour ça, c'est des espaces, c'est des laboratoires, en fait, hein, qui sont extrêmement innovants sur la question de la rêverie et de la résistance.
Oui,
quoi.
Et puis d'une optique citoyenne. Voilà, je pense que le mot citoyen est important, du coup. Ouais.
Cette éco-anxiété touche toutes les générations, ou il y en a qui souffrent plus particulièrement?
Pour moi, dans la société actuelle, il y a une vraie problématique de lien social. Donc du coup, les études qui sont en train de sortir en ce moment, c'est la santé mentale, c'est la grande cause nationale en 2025, en 2026. Et les études qui sortent montrent qu'il y a des problématiques d'isolement social, à la fois chez les jeunes et chez les personnes âgées. Donc oui, la manière dont on a fabriqué le vivre ensemble ces dernières années contribue à ce qu'il y ait des ruptures de liens sociaux et il y a une augmentation de l'isolement et du lien social. Donc les tiers-lieux, les pratiques alternatives, toutes les initiatives qui permettent de retravailler le lien au vivant permettent simultanément de répondre à la question de la solitude. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Le Covid a été un catalyseur hein, dans notre société et justement ce montage de ce comité de surveillance de santé mentale dans le DIWA est issu de ça puisque ils admettaient et indiquaient que tout le monde a vraiment été impacté, même si on n'en a pas forcément conscience, par cet épisode. Est-ce que vous avez senti justement cette éco-anxiété monter brusquement avec cette pandémie ?
Alors le Covid, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ça a créé des situations d'isolement donc, qui se prolongent encore aujourd'hui avec toutes les modalités de relations, notamment dans le travail qui se fait maintenant à distance, avec le fait que plein d'organisations d'entreprises soient passées en télétravail. Donc on voit que ça a permis d'inventer des nouvelles formes de relations au travail et aux autres. Et en même temps, pendant le Covid, il y avait justement ce chant de HK sur comment on peut continuer à danser encore, qui pour nous est fondamental parce que du coup c'est une chanson qui permet d'essayer de réatterrir pour définir comment on peut être ensemble dans des luttes et penser le monde d'après. Donc c'est vraiment la question du vers quoi on souhaite collectivement aspirer pour transformer en fait le vivre ensemble et sortir justement d'un Covid qu'on peut d'ailleurs appréhender comme étant un enjeu écologique puisque la Covid c'est une zoonose et qui est directement issu en fait d'une société extractiviste hein, qui a rapproché des pangolins qui vivaient un peu à distance des êtres humains et qu'on a mangé et qui ont transmis ce virus. Donc ça, à mon avis, le Covid a créé à la fois de l'isolement chez certaines personnes mais aussi une capacité politique et donc de résistance et de rêverie qui est vraiment intéressante.
Oui, je peux ajouter quelque chose. C'est en fait l'ambivalence, enfin le bilan qu'on peut faire est assez ambivalent sur la question du Covid. C'est-à-dire, dans un premier temps, je pense que le Covid a rendu visible quelque chose qui était déjà à l'œuvre dans la société, dans les espaces publics, dans le métro, dans les bus ou ailleurs, qui est ce qu'on pourrait appeler le geste barrière. Et donc en fait, ça a amené une forme de distanciation des personnes. Au nom du fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la possibilité ou du risque d'une contamination, d'une contagion. Et donc, entre ce risque de contagion, qui a certainement des objectivations acceptables du point de vue de la maladie, on est passé à quelque chose qui est beaucoup plus sociétal et ennuyeux, qui est une sorte de contagion psychique de l'autre par rapport à soi. Donc ça, c'est le côté... Il y a un tournant, là, de ce point de vue-là. Le côté plus intéressant, c'est qu'en fait, le Covid nous a montré que, quel que soit le prix à payer, comme disait Macron, c'était quand même une expérience collective intéressante pour se rendre compte que lorsqu'on arrête la machine capitaliste, eh bien, soit on va plus mal quand on est dans des situations de précarité, parce qu'on avait mis en place une veille, je me rappelle, au niveau du Covid, au niveau national, sur les personnes précaires. Mais en même temps, ça permet à un certain nombre de gens de se rendre compte que les oiseaux recommencent à chanter, les animaux reviennent, et que quelque part, quand on laisse un peu de la place aux autres vivants, c'était une expérimentation collective intéressante de ce point de vue-là. Quand on laisse la place aux autres vivants, eh ben les autres vivants, ils ont moins peur et ils s'approchent, quoi, et ils viennent, quoi, voilà. Donc, je sais pas, je pense que le Covid, c'est un tournant anthropologique dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, oui, effectivement.
C'est aussi... Ça a permis de détecter aussi les défauts qu'on peut trouver dans les montages. Là, par exemple, pour la science, puisque ça serait issu d'un laboratoire, ce Covid, par des manipulations. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je crois qu'il y a diverses versions, mais on ne connaît pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a aussi quand même un regard sur l'aspect de ce que fait la science? Est-ce qu'il y a des garde-barrières, des garde-fous dans ce domaine? Est-ce que ça, c'est un sujet que vous abordez ou vous vous intéressez plutôt à l'individu?
Non. Nous, par rapport à la question des sciences, ce que nous apprend le Covid, c'est sur le fait que ça permet de faire émerger une préoccupation pour la santé des humains, en même temps qu'on associe la santé des animaux et la santé de la Terre. Et donc, du coup, ce qu'on appelle One Health ou la santé planétaire. Donc, sur un plan un peu épistémologique, c'est-à-dire que, du coup, le Covid permet de faire émerger le fait que l'expérience de l'animal n'est pas inférieure à l'expérience de l'humain, qui n'est pas inférieure à l'expérience de la Terre et donc des limites planétaires. Donc, du coup, si on regarde ça, on a, du coup, renforcé, le Covid permet de renforcer une lecture critique du capitalocène, donc cette ère géologique sur laquelle on est, qui est une ère extractiviste, qui a un impact à la fois sur la santé des humains, qui nous épuise, sur la santé de la Terre, qui épuise les ressources de la Terre, et sur la santé animale. Donc, voilà, c'est plus de ce côté-là que je verrais un intérêt scientifique sur le Covid.
Alors, par rapport à toutes ces difficultés, ces angoisses et sentiments hein, de renoncement ou de tristesse, vous proposez peut-être des chemins peut-être pour infléchir, de se défaire de ces sentiments, pour peut-être aller à améliorer notre santé mentale. Et comment opérez-vous ça? C'est par votre formation que vous avez pu, et des observations que vous avez pu proposer cet ouvrage, par exemple?
Moi, je propose rien. Je propose rien, si vous voulez. Je suis comme tout le monde, j'essaye de m'en sortir. Et une façon de s'en sortir, c'est de penser ensemble. Donc la seule chose que je peux proposer, c'est qu'il faut continuer à penser ensemble. Et penser, aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Après, sur le fait de réduire les souffrances, il n'y a que collectivement qu'on peut le faire. L'histoire a montré que collectivement, on pouvait le faire. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Simplement, il y a des vagues montantes et des vagues descendantes. On est plutôt dans une vague descendante. Mais ce que j'aurais rajouté, c'est en fait ce que vous appelez la souffrance. Je ne sais pas s'il faut l'appeler la souffrance. Il faut l'appeler quelque chose qui est de l'ordre d'une démobilisation, d'une situation d'immobilisme de gens qui sont effectivement dans des situations difficiles. Et toute la question, c'est la question de l'énergie collective qu'il faut remettre en place. Et là, moi, je n'ai pas d'autre solution que de discuter avec les gens avec qui on a discuté tout à l'heure, avec Guillaume, avec vous, pour qu'on puisse être conscient de ça. Mais je ne serais pas dans une situation où je dirais il faut que les gens souffrent moins. Je pense qu'on est dans une situation où, justement, avec cette souffrance-là, on peut-être aller chercher des énergies qui ne sont pas présentes pour les gens qui sont dans un confort encore, en pensant qu'on est encore dans les 30 glorieuses ou qu'on est dans des situations sociales favorisées qui nous empêchent de penser ces questions-là parce qu'on a tout ce qu'il faut, quoi, alors, et que ça peut durer longtemps. Ça renvoie en fait à nos milliardaires qui s'achètent des îles où ils mettent un certain nombre de bunkers et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Donc c'est parce qu'eux, ils n'ont pas traversé en fait les expériences que traversent la plupart des gens. En fait. C'est pour cette raison-là qu'ils réagissent comme ça. Ils croient qu'ils vont s'en sortir, mais on verra. Personne n'est prophète. Hein.
Pour ce travail pour ce livre, du moins, Soucis écologiques et sentimentaux dans un monde troublé, vous êtes allé au-devant de la population, aller à la rencontre de groupes, de réflexions et d'actions surtout aussi, parce que penser, c'est certainement intéressant, mais l'action est encore mieux.
Penser ensemble.
Oui, penser ensemble, mais... Voilà. Et comment, justement, se concrétise cette pensée ensemble dans la réalité, dans le concret ?
En fait, la trajectoire du livre, elle est intéressante parce que, comme le titre, il inclut santé mentale et soucis écologiques, ça renvoie un peu à des champs de personnes concernées qui sont complètement différentes. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé à la rencontre, là, depuis un an, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, de collectifs qui sont parfois du côté de la psychologie interculturelle, qui se questionnent sur la question de la migration, de la précarité, qui est un peu notre formation d'origine, et notre champ d'intervention d'origine plutôt. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une préoccupation du côté des militants écologistes pour essayer de s'en sortir et de penser ensemble, et je dirais le mot penser dans les deux sens du terme, penser et se soigner
avec
ensemble,
un aussi,
avec un A aussi, pour arriver à se sortir des émotions douloureuses qui sont à la fois celles qu'on peut ressentir quand on pense qu'il y a un effondrement sur le plan écologique, mais aussi les émotions douloureuses qui sont liées au backlash, en fait, sur l'écologie. Et donc, du coup, sur le fait que quand on est militant, quand on est activiste, c'est compliqué actuellement, et c'est de plus en plus compliqué. Donc, du coup, actuellement, on est surtout invité par... des festivals, des tiers-lieux, des festivals éco-bio qui essayent de penser des alternatives de manière collective. Et je pense que la valeur ajoutée du livre, c'est vraiment de dire que la santé mentale, c'est un geste politique.
C'est un ouvrage qui s'adresse à tous.
Alors, on essaie que... Alors, c'est un ouvrage de sociologie, donc on n'a pas été dans la vulgarisation, on
oui.
assume. Mais par contre, on est vraiment prêt à rencontrer toute personne qui a une curiosité pour cet ouvrage.
Et justement, il y a eu ce Covid, et ça, il y a eu cet impact sur les relations entre nous, mais il y a eu aussi peut-être un clash pour les gouvernements, pour les pouvoirs en place, les politiques même. Il n'y avait plus d'un coup cette certitude qui nous emmenait depuis des décennies. Justement, est-ce que la politique actuelle et les gouvernements sont un frein à peut-être ce qu'il y ait une sorte de résilience de la part de groupes, de personnes qui veulent trouver d'autres solutions ?
Oui, mon capitaine.
Ah, comment justement percevez-vous ça ? Est-ce que vous le percevez et par quel fait ?
Alors nous, on a écrit ce livre pendant la période du Covid et un peu après. Et en fait, il y a un certain nombre d'analyses qu'on a pu faire sur le monde d'après, où on pensait qu'effectivement, il allait y avoir une bascule vers un monde d'après qui intégrerait mieux les enjeux écologiques. Et en fait, aujourd'hui, je pense que vu la pression du système Terre sur l'ensemble des sociétés humaines, effectivement, on assiste plutôt à un repli de protection, enfin une forme de conservatisme, de protectionnisme, qui fait que chaque État est en train de décider de faire complètement son abstraction de cette réalité-là pour maintenir le monde d'avant, le plus possible, le temps qu'on peut. Donc du coup, une société extractiviste, tant qu'on peut. D'où un certain nombre de politiques qui se concentrent plutôt sur l'armement, le réarmement, donc qui sont des industries plutôt extractivistes. Et pour répondre en fait à des problématiques de conflits qui sont sur des terrains où pratiquement systématiquement il y a le conflit émerge sur un terrain où il y a des enjeux de captation des terres. Que ce soit au Sud-Soudan, où la sécheresse elle est énorme, que ce soit en Ukraine, où on sait qu'il y a des minerais en Ukraine, ou que ce soit en RDC. Donc du coup, il se trouve qu'on travaille tous les deux aussi dans l'humanitaire. Et en fait, le nombre de crises actuelles a doublé, en fait, doublé, triplé. Enfin, on est vraiment dans une accélération actuellement. Voilà.
La recherche en sciences sociales, c'est sans fin encore. Est-ce qu'il y a des grandes perspectives à découvrir ?
Centrale par rapport à quoi ? Dans le champ universitaire ou
Au niveau de la société, peut-être de trouver justement des nouvelles bases constitutives à une société.
On est un peu jugé parti, c'est-à-dire qu'on pense que la question des sciences sociales est absolument indispensable pour essayer de comprendre et déchiffrer le monde. Après, il faut voir les situations particulières de pays en pays. On est dans un pays, en fait, qui est très cloisonné au niveau disciplinaire. Nous, on milite pour qu'effectivement, quand on dit sciences sociales, il y a la sociologie, il y a l'anthropologie, il y a les lettres, il y a l'histoire, la géographie, etc. On voit bien que la question écologique est complètement un objet commun sur lequel on pourrait travailler tous ensemble, alors qu'on ne le fait pas souvent, en fait, et ça, c'est un peu dommage. Puis après, il y a toute la question des sciences dures. Alors, les sciences dures, on peut avoir deux avis. On a quand même dans le GIEC un certain nombre de gens qui sont issus des sciences dures et qui nous ont amené des éléments tout à fait importants sur la santé mentale. Les sciences dures, c'est les neurosciences qui nous ont, ce qu'on a appelé la brain decade, c'est-à-dire la décade du cerveau, si vous voulez, dans les années 2000, qui nous ont dit qu'ils avaient trouvé le génome de la schizophrénie. On est toujours avec des milliards de dollars qui ont été investis dans une interrogation sur cette question-là. Donc, les sciences sociales ont un bel avenir devant eux si, pour revenir à ta question précédente, si les prédateurs, si tu veux, ne gagnent pas. Parce qu'en fait, du point de vue géopolitique global, si tu veux, en complément de ce que disait Guillaume, il y a 20 ans, on était encore dans une analyse qui était basée sur à la fois une opposition entre libéralisme et socialisme, et avec le marxisme, etc. Et on disait qu'il y avait des tyrans, des staliniens d'un côté, et des tyrans, avec l'idée qu'on était dans une démocratie occidentale qui fonctionnait tant bien que mal, etc. Là, on voit bien que les prédateurs, ils émergent de partout. Donc, la question de ce terme de prédateur, et je pense, est vachement importante à investiguer du point de vue des sciences sociales, parce que on peut la voir au niveau géopolitique global, mais on peut la voir aussi au niveau, je dirais, des relations hommes-femmes aujourd'hui, puisqu'on parle des prédateurs par rapport aux relations sexuelles. Donc, il y a ce nouveau mot qui arrive, moi, qui m'interroge. Qu'on essaye de mettre au travail avec Guillaume quand dans un chapitre on est allé voir en fait quelles étaient finalement les utopies, les visions, les rêves de gens comme Elon Musk ou compagnie, c'est-à-dire aller coloniser d'autres planètes, etc. Les prédateurs ont fait le constat que la Terre allait ne plus être habitable et ils essayent de s'en tirer. Donc c'est une espèce de paradoxe entre des prédateurs qui ont compris que la Terre avait des limites, qui vont jusqu'au bout, comme il disait tout à l'heure, pour essayer de continuer à vivre comme avant, mais qui sont dans une situation où tout l'argent qui dépensent consiste à un moment donné à faire fonctionner les cerveaux entre eux, à partir sur d'autres planètes pour les coloniser avec encore une vision qui reste extractiviste, colonialiste, etc. Donc la question des prédateurs, il faut qu'on s'en occupe, en tant que citoyen, quoi. Et elle dépasse complètement les clivages, même s'ils restent importants, hein, les clivages, qui ont donné les clivages idéologiques ou idéopolitiques qui ont donné lieu à un soulèvement des peuples depuis le début du 19e siècle.
Alors une question peut-être un peu étrange, face à ces prédateurs, devons-nous nous rendre non comestibles ?
Vous pouvez préciser la question.
Par rapport aux prédateurs, est-ce qu'il faut que nous nous rendions non comestibles ? C'est une image, hein, mais est-ce que ça nécessite de réinventer une autre manière de vivre, une autre société qui ne soit complètement incompatible aux prédateurs ?
Ouais, moi aussi, mais je pense qu'en fait, on n'a pas la réponse. C'est-à-dire, du coup, on ne peut pas répondre à cette question, sinon on serait dans une logique de prédation nous-mêmes. Donc du coup, c'est plutôt comment on essaie de construire ensemble un dialogue, d'ouvrir un espace de discussion qui permette de redéfinir ces questions-là. Par exemple, les jeunes aujourd'hui qui justement essayent de ne pas se faire manger par cette prédation et qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants, parce que du coup, faire un enfant dans ce contexte-là, ça serait contribuer à une nouvelle prédation vis-à-vis de la planète. En fait, ça génère quand même une souffrance. Ça se décrète pas, ce type de positionnement. Donc, du coup, c'est plutôt comment on construit la discussion autour de ce type de positionnement et qu'est-ce que ça vient transformer du vivre ensemble pour faire face à ces prédations. Donc voilà, nous, la réponse, elle est plutôt de ce côté-là.
Eh bien, je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas, Guillaume Pégon et Christian Laval, pour votre intervention sur RDIWA et de nous avoir parlé donc du souci écologique et santé mentale dans un monde troublé, que vous avez coécrit et qui est édité aux éditions RS, hein, je crois.
C'est ça.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
2024. Très bien, merci.
Merci beaucoup.
Vous avez vous-même un site internet ou un blog? Non. Pour, non. Et il y a juste des sites scientifiques, hein, où vous êtes mentionné. Voilà. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.